الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا اليوم هو 18 من شهر ذي القعدة عام 1435 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فالدرس هو 26 من كتاب الفصول في سيرة الرسول للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. Nous sommes aujourd'hui le 13 septembre 2014 et ceci est le 26e cours de l'étude de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les chapitres dans la vie du messager. La semaine dernière, nous avons parlé de l'exécution de Abu Rafi' Salam ibn Abi al-Huqayq, cet homme juif qui faisait partie de ceux qui ont excité les ennemis d'Allah tabaraka wa ta'ala et les ont incités à combattre les musulmans, les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, nous avons vu le chapitre concernant l'expédition contre les Bani Lihyan qui avait pour but de se venger de l'assassinat des compagnons qui ont été trahis lorsque des gens sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui faire croire qu'il existe des gens qui souhaitent approfondir leur connaissance de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a envoyé des enseignants et quand ils sont arrivés, ils ont été tués. Et le dernier chapitre, c'est l'expédition de Zulqarad qui avait pour but de rattraper cet homme qui s'est emparé de chameaux, qui a tué le berger et a fait captive l'épouse de ce berger. Et les compagnons, radiyallahu anhum, l'ont rattrapé. Et j'ai fait erreur sur le nom d'un compagnon. Qu'est-ce que j'avais dit, Afi? J'avais dit Mahmoud ibn Salam, alors que c'est Mahmoud ibn Maslama. Barakallahu fikum. Qala ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala, faslun. ثم غزا صلى الله عليه وسلم بني المصطلق من خزاعة في شعبان من السنة السادسة، وقيل كانت في شعبان سنة 5 والأول أصح، وهو قول ابن إسحاق وغيره. واستعمل على المدينة أبا ذر، وقيل نميلة بن عبد الله الليثي، فأغار عليهم وهم غارون على ماء لهم يقال له المريسيع المريسيع، وهو من ناحية قديد إلى الساحل، فقتل من قتل منهم وسبى النساء والذرية، وكان شعار المسلمين يومئذ أمت، فكان من السبي جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار ملك بني المصطلق، وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس فكاتبها فأدى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها، فصارت أم المؤمنين، فأعتق المسلمون بسبب ذلك 100 بيت من بني المصطلق قد أسلموا. ابن كثير رحمه الله تعالى دي Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lança une expédition contre les Bani al-Mustaliq de la tribu Khuza'a, et cela au mois de Sha'ban de l'an 6 de l'Hégire, comme l'affirme notamment Ibn Ishaq, ou selon d'autres en l'an 5, la première version étant la mieux fondée. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala va maintenant passer à ce chapitre qui concerne l'expédition contre la tribu des Bani al-Mustaliq. il y a différentes causes pour lesquelles le prophète a décidé d'attaquer cette tribu ennemie. Parmi celles-ci, premièrement, ces gens de la tribu de Bani Mustaliq faisaient partie de ceux qui s'étaient alliés à Quraysh pendant la bataille de Uhud. Pendant la bataille de Uhud, il y avait des gens de Bani Mustaliq. Deuxièmement, ces gens-là avaient les demeures proches de la ville de Mecca. Et ils aidaient Quraysh contre les musulmans. Ainsi, lorsque les musulmans avaient besoin de se rendre à la Mecque, ils trouvaient sur la route les Bani Mustaliq. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pour objectif de reconquérir la ville de sa ville natale, la Mecque. Et pour ce faire, il doit commencer à épurer le chemin y menant. C'est pourquoi il a fallu projeter cette expédition contre les Bani Mustaliq. Troisièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu que les gens de la tribu de Bani Mustaliq commençaient à se regrouper dans le but de venir attaquer les musulmans. Et comme vous l'avez su, après la bataille de l'Ahzab, des coalisés ou bien de la tranchée, le prophète a dit à partir d'aujourd'hui, les mécréants ne viendront plus nous attaquer, c'est nous qui allons aller les attaquer. فأسباب غزوة بني المصطلق فمنها ثلاثة. الأول لأنهم كانوا ممن تآلفوا مع قريش في غزوة أحد، فهم كانوا أنصارا لقريش أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا كانوا يسكنون بقرب مكة، فهم في الطريق إلى مكة. فإذا أراد الصحابة رضي الله عنهم الوصول إلى مكة وجدوهم في طريقهم وكانوا قد قصدوا فتح مكة، ومكة لن تفتح إلا إذا أزيل من الطريق الأذى، ومن الأذى في طريق مكة بني المصطلق. ثالثا سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم بدأوا يتجمعون لقتال المسلمين، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه بعد غزوة الأحزاب صار المسلمون هم الذين يغزون الكفار، والكفار لن يغزو المسلمين أبدا. هذه أسباب ثلاثة. Voici donc trois causes pour lesquelles le prophète صلى الله عليه وسلم a eu la décision de partir contre les Bani al-Mustaliq. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala a dit que cette expédition a eu lieu au mois de Sha'ban fil 'am as-sadis min al-hijra, hadha 'ala qawl, en l'an 6 de l'Hégire pendant le mois de Sha'ban, wa huwa al-qawl alladhi akhadhahu Ibn Kathir al-mu'allif. إلا أنه يظهر كما ذكر الشيخ عبد الرزاق وفقه الله أن القول الصواب أنه في العام الخامس. Ibn Kathir a choisi l'avis que cette expédition a eu lieu en l'an 6. Mais Cheikh Abd al-Razzaq, hafidhahu Allah, a cité l'avis de beaucoup de savants parmi lesquels Ibn al-Qayyim rahimahullah, qu'en vérité cette expédition a eu lieu en l'an 5. Et vous allez voir certains indices par la suite, Inch'Allah, qui vont vous prouver de façon claire que cela a eu lieu en l'an 5. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lança une expédition contre les Bani al-Mustaliq de la tribu Khuza'a au mois de Sha'ban de l'an 6 de l'Hégire, comme l'affirme notamment Ibn Ishaq, ou selon d'autres en l'an 5, la première version étant la mieux fondée. Donc pour lui, c'est en l'an 6. Après avoir désigné Abu Dharr, ou selon d'autres, Numayla ibn Abdullah al-Layfi, pour le remplacer à Médine. النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج من المدينة استعمل عليها أي جعل فيها أميرا، وكان في هذه الغزوة قد استعمل أبا ذر أو نميلة ابن عبد الله الليثي ليكون أمير المسلمين في مدة غياب النبي صلى الله عليه وسلم. Prophète sallallahu alayhi wa sallam a désigné un de ses deux compagnons, Abu Dhar, ou bien selon d'autres, Numayla, pour le remplacer à Médine. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les attaqua par surprise autour de l'un de leurs points d'eau appelé Al-Muraysi'. Al-Muraysi' hadha ismun limakan fihi ma' bi'r. ولذلك تسمى غزوة بني المصطلق وكذلك تسمى غزوة بني غزوة المريسيع. Et donc on appelle cette expédition Banu al-Mustaliq, on l'appelle aussi al-Muraysi', en référence au nom de cet endroit qui est cité ici où le prophète alayhi salatu wassalam a envoyé cette expédition. Il les attaqua donc par surprise à cet endroit situé près de Qudayd, en direction de la côte. Donc ce sont des endroits dans la Mecque. Les musulmans tuèrent un certain nombre de leurs combattants et capturèrent les femmes et les enfants. Le mot de ralliement des musulmans était ce jour-là « tu, tu ». Parmi les captives se trouvait Juwayriya, la fille de l'Harif ibn Abi Dirar. Et on va lire la suite après. ابن كثير رحمه الله تعالى بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل منه من قتل، يعني الصحابة رضي الله عنهم هم الذين قتلوا هؤلاء القوم، وأخذ في السبي النساء والذرية. Il dit que les compagnons رضي الله عنهم ont tué pas mal de personnes et ont fait captifs des femmes et les enfants, et qu'ils utilisaient pour se regrouper comme code amit amit. فَإِذَا قَالَ أَحَدُهُمْ مَنْ أَنْتَ إِذَا أَجَابَ بِأَمِتْ أَمِتْ عَرَفَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ أَنَّهَا كَالْكَلِمَةِ السِّرِّيَّةِ بَيْنَهُمْ الشِّعَار. Donc lorsque l'un d'entre eux disait « Amit, Amit », l'autre savait immédiatement qu'il était musulman puisqu'il s'était mis d'accord pour prononcer ces mots afin de se reconnaître les uns les autres. Puis dans cette bataille, il s'est passé une chose. C'est qu'il y avait parmi les femmes captives « كانت من السبي هذه المرأة الطاهرة التي صارت أم المؤمنين جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار رضي الله تعالى عنها وعن أبيها. Cette femme-là, Juwayriya, était à la base une captive. Elle était une captive. Mais ce qu'elle a fait a été intelligent. Comme le dit Ibn Kathir رحمه الله تعالى, قال وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس هو الذي أخذها في السبي فكاتبها أي اشترط عليها إذا أرادت أن يعتقها أن يعطيها كذا وكذا كاتبها فأدى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي دفع لها وتزوجها فصارت أم المؤمنين فعتق المسلمون بسبب ذلك 100 بيت من بني المصطلق قد أسلموا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بهذه المرأة، وهذه المرأة بنت لسيد القوم، فقالوا كيف هم أصهار النبي صلى الله عليه وسلم ونبقيهم عندنا ما يمكن، فأطلقوهم فأسلموا جميعا. فقالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت مرأة أعظم بركة على قومها من هذه المرأة جويرية رضي الله تعالى عنها. ابن كثير رحمه الله تعالى a dit lors du partage du butin, elle fut attribuée à Thabit ibn Qais ibn Shammas. C'est donc lui qui l'a pris en captive. Elle devait rester avec lui, radiyallahu anha. Et cette femme-là était la fille du chef des Bani al-Mustaliq. Le chef des Bani al-Mustaliq, Harith ibn Abi Dirar, wa huwa Malik Bani al-Mustaliq. Donc, c'était une personne importante chez les Bani al-Mustaliq, puisque c'était la fille de leur chef, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Qui s'engagea à la libérer contre une somme d'argent. Il lui a dit : « Je te libère, je te laisse partir à condition que tu me donnes telle et telle somme d'argent. » Cette femme-là est allée voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit : « Ya Rasulallah, j'ai été constituée captive, je suis croyante, je veux me libérer et il m'a mis comme condition de lui donner telle et telle somme que je n'ai pas. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit : « Je te donne cette somme pour te libérer et je t'épouse. » Subhanallah. Fakanat ama fasarat hurra zawjan nabi sallallahu alayhi wa sallam. Elle était une esclave ou bien captive, elle est devenue libre, épouse du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, ummul mu'minin, mère des croyants. Allahu akbar. Et donc, suite à ça, les compagnons, radiyallahu anhum, ont dit : « On ne peut pas garder tous ces gens-là en captif. » Car cette femme qui a été épousée par le prophète, alayhi salatu wassalam, est la fille du chef du peuple. Et c'est devenu la mère des croyants. Donc, tous ces gens-là sont comme des gens proches du prophète, alayhi salatu wassalam. Puisque c'est la femme du prophète, sallallahu alayhi wasallam, et en même temps, c'est la fille du chef du peuple. On ne peut pas garder tous ces gens-là. Ils se sont mis à les libérer, les uns après les autres. Et quand ils ont été libérés les uns après les autres, ils ont vu la générosité ou la gentillesse des musulmans, et ils se sont tous convertis à l'islam. Et Aïcha radiyallahu anha a dit : « Je n'ai jamais vu une femme qui a autant de baraka pour son peuple que Juwayriya, radiyallahu anha. » Voici Juwayriya, la mère des croyants, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa kadhalika ba'da dhalik aslama abuha, Abu Juwayriya, lamma ra'a min al-muslimin hadha al-ikram, a'taqu al-qawm, qabila al-islam wa dakhala fihi. Asara mu'minan radiyallahu anhu. Également Al-Harith ibn Abi Dirar, le chef ou le roi du peuple des Bani al-Mustaliq, lorsqu'il a vu tout ça, le prophète de l'islam délivre ou libère ma fille, il la prend en épouse, il prend soin d'elle, et tout son peuple libère mon peuple, il est rentré dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال وفي مرجعه صلى الله عليه وسلم أي في طريق العودة إلى المدينة قال الخبيث عدو الله ابن أبي ابن سلول عبد الله ابن أبي ابن سلول رأس المنافقين لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل يعرض برسول الله صلى الله عليه وسلم يقصد أنه الأعز وأن النبي عليه الصلاة والسلام الأذل وإذا عادوا إلى المدينة سيخرج منها الأعز الأذل فبلغها زيد بن أرقم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء عبد الله بن أبي بن أبي يعتذر ويحلف ما قال انظروا إلى طريقة المنافقين ويحلفون على الكذب وهم يعلمون فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله عز وجل تصديق زيد بن أرقم في سورة المنافقين. ابن كثير رحمه الله تعالى a dit: après avoir payé à Thabit ibn Qais le prix de son affranchissement, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم l'épousa. Par ce mariage, Juwayriya devint la mère des croyants. Grâce également à cette union, les musulmans affranchirent une centaine de familles des Bani al-Mustaliq qui s'étaient converties à l'islam. Sur le chemin du retour à Médine, l'ennemi d'Allah, l'abject, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, affirma: lorsque nous retournerons à Médine, le plus puissant en fera assurément sortir le plus faible. Il faisait allusion au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Zayd ibn Arqam rapporta alors ces mots au messager d'Allah, alayhi salatu wa sallam. Mais Abdullah ibn Ubay vint se disculper en jurant qu'il n'avait jamais prononcé de telles paroles. Le messager d'Allah, alayhi salatu wa sallam, garda le silence. Puis Allah Tout-Puissant fit descendre des versets de la sourah Al-Munafiqoun, les hypocrites, confirmant la version de Zayd ibn al-Arqam. Donc ils étaient sur le chemin du retour, et Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, comme à son habitude, va semer la zizanie, va faire naître des problèmes, car c'est un kafir pur, un grand mécréant en Allah Azza wa Jal, qui se fait passer pour un croyant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sait qu'il est mécréant, mais vous avez connu les raisons pour lesquelles il se conduit avec lui comme si qu'il était musulman, afin que les gens ne disent pas « Mohammed tue ses compagnons » alayhi salatu wa sallam, ou les combats. Et aussi Allah Azza wa Jal va le préserver des ruses des munafiqoun. Donc en vérité, il ne va se faire du tort et du mal qu'à lui-même. Et donc cet homme-là, il marche et il parle à ses amis et il leur dit: نحن الأعزة أنا الأعز ومحمد الأذل وإذا عدنا إلى المدينة سأخرجه وهو الأذل من المدينة. Il dit à ses compagnons: je suis le plus fort et lui il est le plus faible, et quand on retournera à Médine, le plus fort fera sortir de Médine le plus faible. Il n'a pas dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être au cas où si des gens sont à côté n'entendent pas qu'il parle du prophète alayhi salatu wa sallam. Mais Zayd ibn Arqam radiyallahu an était là et a su qu'il parlait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est allé immédiatement rapporter les propos au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et suite à ça, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul est venu et a dit: ya Rasulallah, wallahi ma qultu hadha al-kalam khabith. Et dit au messager d'Allah: wallahi, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Qala Zayd ibn Arqam radiyallahu an fa saddaqahu wa kadhabani. Allahu akbar. Lian an-nabi alayhi salatu wasalam yu'amiluhu 'ala adh-dhahir. Zayd ibn Arqam m'a dit dans une autre version que c'est comme si qu'il a cru en lui et il m'a réfuté. Donc il a été touché par une quelconque tristesse. فأنزل الله عز وجل سورة المنافقين وبين فيها صدق زيد بن أرقم رضي الله عنه ففضح الخبيث المنافق عبد الله ابن أبي بن سلول. Et donc il a patienté et Allah tabaraka wa ta'ala a légiféré ou a révélé la sourah Les Hypocrites, dans laquelle il a donné raison à Zayd ibn Arqam et il a dévoilé et démasqué l'hypocrite Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. Il dit, Allah Azza wa Jalla dans sourate Al-Munafiqun, ce qui veut dire, ils disent, c'est-à-dire les hypocrites, si on retourne à Médine, le plus puissant fera sortir de cette ville le plus faible. Et en vérité, la toute puissance est à Allah, aux croyants, à Allah, à son prophète et aux croyants, mais les hypocrites ne comprennent pas. كَيْفَ تَكُونُ الْأَعَزُ وَأَنْتَ مَعَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Comment vas-tu être le plus fort alors que tu es avec le diable, l'ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala. وفي هذا نزلت سورة المنافقون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وكان في هذه الغزوة من الحوادث قصة الإفك والله ما أعظمها من قصة. ابن كثير رحمه الله تعالى va citer une histoire qui a toute son importance. وفي هذا هذه الحلقة سنذكرها جملة ونفصلها إن شاء الله في الدرس المقبل بإذن الله تعالى. On va citer cette histoire dans sa globalité aujourd'hui et dans le prochain dars, on la citera en détail, inshallah ta'ala. قال قصة الإفك الذي افتراه عبد الله ابن أبي هذا الخبيث وأصحابه. انظروا دائما هذا الخبيث قاتله الله. قال وذلك أن أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما كانت قد خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السفرة. أي سفرة؟ سفرة غزوة بني المصطلق. هم كانوا في طريق العودة من هذه السفرة. فكانت تحمل في هودج، والهودج شيء يحمل فيه المرأة من أجل أن تكون مستورة، وكانوا يستعملون الهودج فوق الدواب بعد نزول فرضية الحجاب. فنزلوا بعض المنازل ثم أرادوا أن يرتحلوا أول النهار، فذهبت إلى المتبرز أرادت قضاء الحاجة، ثم رجعت فإذا هي فاقدة عقدا لأختها أسماء كانت أعارتها إياه، فرجعت تلتمسه في الموضع الذي كانت فيه، فجاء النفر الذين كانوا يرحلون بها فحملوا الهودج حملة رجل واحد، أي اجتمعوا على حمل الهودج، مما أدى إلى أنهم لم يشعروا بعدم وجود عائشة في الهودج. قال وليس فيه أحد، فرحلوه على البعير ولم يستنكروا خفته لتساعدهم عليه، ولأن عائشة رضي الله عنها كانت في ذلك الوقت لم تحمل اللحم، أي كانت خفيفة، بل كانت طفلة في سن 14 سنة. فلما رجعت وقد أصابت العقد لم تر بالمنزل أحدا، فجلست في المنزل وقالت إنهم سيفقدونها فيرجعون إليها. هذا من الحكمة، القوم قد ذهب ولم يشعروا بأنها غير موجودة معهم، فقالت أبقى في هذا المكان، إذا شعروا رجعوا إلى المكان فوجدوني. قال والله غالب على أمره، لأنه لم يحصل هذا، وله الحكمة فيما يشاء. وأخذتها سنة من النوم، والسنة كما جاء في آية الكرسي لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة مقدمة النوم الذي هو النعاس، فلم تستيقظ إلا بترجيع صفوان بن المعضل السلمي ثم الذكواني، أي لم تستيقظ إلا بعد أن سمعت قوله إن لله وإنا إليه راجعون. وكان قد عرس في أخريات القوم، عرس أي نزل، لأنه كان شديد النوم كما جاء ذلك عنه في رواية أبي داود. فلما رأى أم المؤمنين قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وهنا سمعته عائشة، قال إنا لله وإنا إليه راجعون زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أناخ بعيره فقربه إليها فركبته، ولم يكلمها كلمة واحدة ولم تسمع منه إلا ترجيعه، ثم سار بها يقودها حتى قد قدما وقد نزل الجيش في نحر الظهيرة. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala va réciter ou raconter le récit de la calomnie. La calomnie dont a été victime la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha, cette femme pure, pieuse, chaste, innocente, et innocentée par Allah tabaraka wa ta'ala radiyallahu anha. Et ce récit ou cette histoire a une très grande importance dans la sira, dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'ici il s'agit de la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on va l'accuser d'avoir commis l'adultère. On va accuser la femme du prophète alayhi salatu wassalam d'avoir trompé son mari. Et une rumeur va se propager dans les rangs des croyants et dans les rangs des hypocrites. Et à la tête de cette rumeur, qui encore? Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. C'est lui qui va propager cette rumeur pour faire du mal aux musulmans de l'intérieur. Voici la tariqa des munafiqoun, la méthodologie suivie par les hypocrites. Ils sèment les mauvaises graines dans les cœurs des musulmans et dans les rangs des musulmans dans le but de leur venir en mal ou de leur faire du mal. Wal'iyadu billah. Et le prophète va être éprouvé, sallallahu alayhi wa sallam. Et Aïcha radiallahu anha va être éprouvée très difficilement. Mais elle va être croyante, elle va être ferme, et Allah tabaraka wa ta'ala va révéler des versets pour l'innocenter, pour montrer qu'elle est pure, qu'elle est pieuse. Et avec ces versets, les savants sont unanimes, ittafaqa ahlul ilm min ahli sunnati wal jama'a ala kufri man ittahama Aisha radiyallahu anha. Les savants sont unanimes sur la mécréance de celui qui dit que Aïcha radiallahu anha a commis l'adultère et a trompé son époux le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa kana al-munafiqun yatahayyanun al-furas li-ilqa' al-shubah wa ish'al nar al-fitan bayn al-muslimin wa kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yudfi'uha. Fitnatan fitna. Les hypocrites saisissaient toutes les occasions pour lancer des flammes de discorde, de troubles, de problèmes dans les rangs des musulmans, et à chaque fois le prophète alayhi salatu wasalam venait les éteindre les unes après les autres. Mais celle-ci était particulière. Wa kana alayhi salatu wasalam idha arada as-safar qama bil qur'a min ajli an yakhtara min nisa'ihi mar'a تصحبه في الرحلة. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam partait en voyage, il tirait au sort avec ses épouses pour voir laquelle d'entre elles allait l'accompagner. Et ce jour-là, فأصابت القرعة عائشة رضي الله عنها. C'est Aïcha رضي الله عنها qui a été tirée. Donc c'est elle qui l'a accompagnée sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les événements qui se déroulèrent au cours de l'expédition contre les Bani al-Mustaliq, c'est-à-dire pendant le chemin du retour, la calomnie répandue par l'abject Abdullah ibn Ubay et ses amis. En effet, la mère des croyants, Aïcha radiallahu anha, la fille d'Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anha, avait accompagné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au cours de cette expédition, après un tirage au sort, comme vous l'avez vu. Elle voyageait alors dans un palanquin. Le palanquin, c'est ce sur quoi la femme va être posée et qu'on va poser sur le dos de la monture et qui va servir à porter la femme et à la couvrir afin qu'elle ne soit pas vue. Et cette chose a été utilisée à partir du moment où le voile islamique a été légiféré. Donc on ne pouvait plus laisser la femme sur la monture comme ça, visible. Et donc qu'est-ce qu'on faisait? On la montait sur le haoudaj, qu'on a traduit par le palanquin. C'est une chose sur laquelle on pose la femme, c'est comme si qu'elle rentre dans cette chose-là, puis on la pose sur le dos de l'âne, ou du cheval, ou du chameau, afin de cheminer sans que les gens qui sont derrière ne puissent voir cette femme. Après une halte, le départ fut annoncé au début de la journée. Aïcha radiallahu anha s'éloigna alors du campement pour faire ses besoins. Puis, Elle retourna en direction de son palanquin, mais se rendant compte de la disparition du collier que sa sœur Asma lui avait prêté, elle retourna sur ses lieux à sa recherche. Pendant ce temps, les hommes chargés de son palanquin le portèrent comme un seul homme, c'est-à-dire qu'ils se sont tous réunis. Donc on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, c'est une chose qui est fermée. Ils pensent que Aïcha est dedans, radiyallahu anha. Ils le portent comme un seul homme, c'est-à-dire qu'ils se réunissent, ils le portent tous. Chacun porte un coin ou un angle du palanquin. Résultat, ils n'ont pas vu que Aïcha radiyallahu anha n'était pas assise dans son palanquin, puisque c'était tellement léger, car ils étaient tous en train de le porter. Les hommes chargés de son palanquin le portèrent comme un seul homme, avant de le placer sur le chameau, alors que nul n'y avait pris place. Aïcha n'y était pas. Les hommes ne furent pas surpris par la légèreté du palanquin lorsqu'ils le soulevèrent et le chargèrent sur le dos du chameau, car ils l'avaient soulevé à plusieurs. Donc c'est la première raison pour laquelle ils n'ont pas fait attention au fait que Aïcha n'était pas sur son palanquin. Deuxièmement, et parce qu'à cette époque, Aïcha, radiallahu anha, était une jeune fille de 14 ans et n'était pas grasse. Elle était mince, petite, elle n'était pas corpulente. Après avoir retrouvé le collier, Aïcha, radiallahu anha, retourna à l'endroit où l'armée avait campé, mais sans y trouver âme qui vive. Donc eux ont porté le palanquin et ils ont commencé à cheminer vers Médine, sans se rendre compte que Aïcha n'est pas là. Aïcha continue à chercher son collier. Elle le retrouve, mais quand elle revient, il n'y a plus personne. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle décida alors de s'asseoir à cet endroit en se disant que les gens qui se rendraient bien compte de son absence et viendraient la chercher. Que les gens se rendraient bien compte de son absence et viendraient la chercher. Regardez, elle a été intelligente. Car l'un d'entre nous, peut-être que s'il est perdu dans un endroit, il va aller à la recherche des autres. Et en allant à la recherche, il va se perdre. Il va tourner à droite, à gauche, prendre un autre chemin. Puis les autres vont se rendre compte qu'un homme a été perdu. Ils vont revenir au point de départ, ils ne vont trouver personne. Aïcha radiallahu anha a dit, forcément, il va venir un moment, ils vont se rendre compte qu'ils m'ont perdu. Alors je reste à cet endroit-là. Eux, ils feront demi-tour, ils m'y trouveront. Puis, Aïcha radiallahu anha fut gagnée par le sommeil. Elle ne fut arrachée de son sommeil qu'en entendant Safwan ibn al-Mu'adhdhal al-Sulami al-Dhakwani s'exclamer en la reconnaissant « Inna lillah wa inna ilayhi raji'un ». Elle s'est endormie et Safwan radiallahu anha était quelqu'un qui s'était arrêté loin avant les musulmans et il s'était endormi et il avait un sommeil profond. Quand il s'est réveillé, il a vu les musulmans s'éloigner, il a commencé lui aussi à cheminer vers Médine et subhanallah, il a retrouvé Aïcha et il la connaissait puisque il l'a vu avant le verset du hijab, avant l'ordre du hijab. Donc il savait que c'était Aïcha radiallahu anha. Et il a dit « Inna lillah wa inna ilayhi raji'un »« Allah nous sommes et vers lui nous retournerons » Pourquoi il dit ça ? L'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute seule, comme cela, il dit « Safwan qui était un grand dormeur, comme le rapporte Abu Daoud dans sa version, avait prolongé son sommeil à l'arrière de l'armée, en voyant la mère des croyants. Donc il s'exclama « Inna lillah wa inna ilayhi Raji'un, nous sommes à Allah et c'est vers lui que nous retournerons. » L'épouse du messager d'Allah ici, ensuite il força son chameau à s'agenouiller et l'approcha de Aïcha qui s'installa sur le dos de l'animal. Il ne lui adressa pas la moindre parole. Les seuls mots qu'elle entendit prononcer étant « Inna lillah wa inna ilayhi raji'un » Puis à pied, il conduisit le chameau. Et à midi, ils furent bientôt en vue de l'armée qui venait de faire une nouvelle halte. Falamma ra'a dhalika an-nas takallama al-munafiquna bima Allah mujazim bih. Wa ja'ala Abdullah ibn Ubay al-Khabith مع ما تقدم له من الخزي في هذه الغزوة يتكلم في ذلك ويستحكيه ويظهره ويشيعه ويبديه. سبحان الله، قاتله الله. Il dit, en les voyant arriver, les hypocrites prononcèrent des paroles dont ils devront répondre devant Allah. Abdullah ibn Ubay, ajouté à l'infâme comportement qui avait été le sien au cours de cette expédition, celle dans laquelle il a dit, عندما قال سيخرجن الأعز من الأذل, le plus fort va faire sortir le plus faible. Se mit à parler de cet événement et à répandre la rumeur entourant la mer des croyants. C'est lui qui a commencé à dire: والذي قال للناس أتدرون ما فعلت عائشة فعلت كذا وفعلت كذا قاتله الله. C'est lui qui a dit: savez-vous ce qu'a fait Aïcha? Elle a fait telle et telle chose, en citant l'adultère. Qu'Allah Azza wa Jalla le combatte et lui donne ce qu'il mérite. Le récit de cette calomnie est longuement rapporté dans les deux recueils authentiques. Et c'est ce qu'on va lire, Inch'Allah, au prochain cours. On lira le récit, bi'idhnillahi ta'ala, en détail. فَكَانَ الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ كَمَا هُوَ مُطَوَّلٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص الليثي وعبد الله بن عبد الله بن عتبة كلهم عن عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات مما أبنها به أي اتهمها به أهل الإفك في هذه الغزوة في قوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit: le récit de cette calomnie est longuement rapporté dans les deux recueils authentiques d'après Az-Zuhri, d'après Sa'id ibn al-Musayyib, d'après Urwa ibn Zubayr, d'après Alqama ibn Waqas, Al-Layfi, d'après Ubaydullah ibn Abdullah, d'après Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utba, tous le tiennent de Aïcha radiallahu anha, la véridique et fille du véridique qui, du haut des sept cieux, fut lavée de l'accusation portée contre elle par les calomniateurs au cours de cette expédition. Et ce, par ces paroles du Très-Haut, subhanahu wa ta'ala, traduction du verset: en vérité, ceux qui ont inventé la calomnie sont un groupe d'entre vous. Ne pensez pas que c'est un mal pour vous, mais c'est plutôt un bien pour vous. فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ وَكَانَ بَعْدَ قُدُومِهِ مِنْ هَذِهِ الْغَزْوَةِ بِأَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ جُلِدَ الَّذِينَ تَكَلَّمُوا فِي الْإِفْكِ وَكَانَ مِمَّنْ جُلِدَ مِصْطَاحُ ابْنِ أُثَاثَةَ وَحَمْنَ بِنْتُ جَحْشٍ. Lorsqu'Allah le Très-Haut, plus d'un mois après leur retour de cette expédition, fit descendre ce verset: ceux qui avaient semé la calomnie furent fouettés, au nombre desquels Mistah ibn Uthatha et Hamna, la fille de Jahsh. وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَبْلَ ذَلِكَ صَاعِدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَخَطَبَ الْمُسْلِمِينَ واستعذر من عبد الله بن أبي وأصحابه فقال من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي والله ما علمت على أهلي إلا خيرا وذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما يدخل على أهلي إلا معي فقام سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل وسعد بن معاذ هو سيد الأوس فقال يا رسول الله أنا أعذرك منه فإن كان من الأوس ضربنا عنقه وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج فقال أي فقال لسعد بن معاذ سيد الأوس كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تستطيع قتله ولو كان من رهطك أي من جماعتك ما أحببت أن يقتل. فقال أسيد بن الحضير والله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فتثاور الحيان فصارت فتنة بينهما بسبب المنافق قاتله الله حتى كادوا يقتتلون سبحان الله. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكنهم أي يهدئهم حتى سكنوا الحديث. وسنقرأ الحديث إن شاء الله مفصلا في الجلسة المقبلة. ابن كثير رحمه الله تعالى دي avant cela, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était monté sur le minbar pour réclamer vengeance contre Abdullah ibn Ubay et ses amis. Là, il ne peut plus supporter. الآن لا يتحمل هذا الأذى من هذا المنافق. Il ne peut plus supporter. Il accuse Aïcha radiallahu anha d'avoir commis la fornication, l'adultère. Il avait dit, qui me vengera et me préservera d'un homme qui s'est attaqué à ma propre épouse? Par Allah, je ne connais que du bien de mon épouse. Et les gens mentionnent un homme dont je ne connais que du bien et qui ne rentrait chez moi comme accompagné. Et هذا الرجل صفوان رضي الله عنه الذي اتهموه بهذه الفاحشة مع أهلي لا أعرف عنه إلى الخير. كان إذا دخل على أهلي يدخل معي ما عرفته بهذا لا يمكن هذا. فات عليه الصلاة والسلام دي cet homme je ne le connais combien, il respecte mon épouse, فهو يحترم أهلي. لا يتصور أن يحصل من مثله هذه الفاحشة. On ne peut pas concevoir qu'un tel acte est commis par ce compagnon qu'Allah l'agré. Sa'd ibn Mu'adh, radiallahu anh, qui est le chef des Aws, du clan des Bani Abd al-Ash'al, se leva alors et dit, je te préserverai de lui, ô messager d'Allah. S'il appartient aux Aws, c'est-à-dire que si cet hypocrite fait partie de notre tribu, nous les Aws, nous lui trancherons la nuque. Et s'il appartient à nos frères, les Khazrat, donne-nous l'ordre que tu veux, nous t'obéirons. Huna, waqfa. Waqfa jamila. Regardez l'intelligence de cet homme. La yurid al-fitna bain al-Aws wa al-Khazrat. فقال رضي الله عنه فإن كان من الأوس أي من الأوس ضربنا عنقه وإن كان من إخوتنا من إخواننا من الخزرج لم يريد أن يقول وإن كان من الخزرج قتلناه كذلك. أتى بالأسلوب الحكيم. إن كان من إخواننا وإخواننا في الله عز وجل أمرتنا فعلنا أمرك فلن نلام ولن نذم إنما إذا فعلنا فعلنا أمرك. Il dit, regardez la sagesse de cet homme, afin de ne pas provoquer davantage de discorde entre les compagnons. S'il appartient à nos frères les Khazraj, donne-nous l'ordre que tu veux, nous t'obéirons. C'est-à-dire que il fait attention à ne pas réallumer la flamme de la discorde entre les Aws et les Khazraj. Ce sont nos frères. Mais si tu nous donnes l'ordre de l'exécuter, on le fera, même s'il fait partie des Khazraj. On ne le fait pas parce qu'il fait partie des Khazraj, on ne le fait que parce que tu nous as ordonné de le faire, alayhi salatu wassalam. Et Sa'd ibn Ubada, le chef des Khazraj, va répondre. Et regardez, une discorde va naître entre les compagnons. Sa'd ibn Ubada, le chef des Khazraj, se leva alors et s'exclama, par Allah, tu mens. Tu ne le tueras pas. Tu n'en seras jamais capable. D'ailleurs, s'il avait appartenu à ton clan, tu n'aurais pas accepté qu'il soit tué. Usayd ibn al-Hudayr, comme vous le voyez en dessous, qui fait partie des proches de Sa'd ibn Mu'adh, rétorqua, par Allah, nous le tuerons. Tu es un hypocrite qui prend la défense des hypocrites. Subhanallah. Maintenant, il y a un autre problème qui arrive. هذه فتنة بدأت تظهر في صفوف الصحابة رضي الله عنهم. Les deux tribus s'élancèrent alors l'une contre l'autre, prêtes à s'entretuer. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ne cessa d'apaiser les esprits jusqu'à ce que le calme revienne. Regardez les hypocrites, subhanallah. Bi kalimatin wahida sarat kull hadhihi al-fitan. Ba'd an-nas saddaqu an 'Aisha radhiyallahu 'anha zanat wa takallamu fi 'ardiha wa 'ardi an-nabi 'alayhi as-salatu was-salam. Ba'd as-sahaba ara kadu an yaqtatilu bisabab kalimatin wahida. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بكلمة واحدة ما يتبين فيها أي لا ينتبه لمعناها ولخطرها ولفتنتها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. Avec une seule كلمة, une seule parole, regardez le mal qu'il a fait. Subhanallah. Et vous voyez le danger de la parole. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wasalam a dit, un serviteur prononce une parole à laquelle il ne prête pas attention. Il prononce des paroles, une parole. Il ne fait pas attention à sa gravité. Il va glisser en enfer, dans une distance plus loin, plus lointaine que celle qui sépare l'Est à l'Ouest, l'Orient à l'Occident, à cause d'une seule parole. فنسأل الله عز وجل أن يكون أعظم النصيب لهذا الرجل. لمن الله تبارك وتعالى qu'il donne la plus grosse part de cette menace à cet homme-là, cet hypocrite. قال وهكذا وقع في الصحيحين أن المقاول لسعد بن عبادة سعد بن معاذ أو نكتفي بهذا ونفصل في الدرس المقبل بإذن الله تعالى. On s'arrête ici inshallah et on détaillera cette histoire au prochain cours بإذن الله تبارك وتعالى le samedi après la prière du Asr. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.